VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
16h à Bamako, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. Burundi, Germain Rukiki, un militant de la société civile, a été arrêté jeudi par le SNR, le Service National de Renseignement, et il est maintenant détenu pour atteinte à la sûreté de l'État. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole de la police, Pierre Nkurikiye, dans un tweet ce vendredi. M. Rukiki, qui travaille dans le milieu associatif depuis des années, a été appréhendé chez lui à Ngagara, un quartier du nord de Bujumbura, la capitale. Réaction de ses collègues de la société civile, nous dénonçons l'arrestation de cet activiste des droits de l'homme par la police présidentielle du SNR, qui se comporte comme un État dans l'État, a déclaré aujourd'hui à l'AFP Maître Armel Nyongiri, l'une des principales figures de la société civile burundaise en exil et le premier à donner l'alerte sur cette arrestation. Germain Rukiki est le responsable financier de l'Association des juristes catholiques du Burundi, AGCB, l'une des rares ONG indépendantes à avoir encore pignon sur rue dans le pays. Une dizaine d'autres ONG sont interdites ou suspendues et des dizaines de leurs membres ont été contraints à l'exil depuis le début de la crise politique au Burundi. RCA, la communauté catholique de Sant'Egidio, a annoncé jeudi que l'accord de paix dans le pays signé le mois dernier à Rome par plusieurs groupes rebelles et les autorités centrafricaines va être complété la semaine prochaine par un comité de suivi impliquant l'Assemblée nationale à Bangui. Le point avec Solange Nyamulisa.
Une délégation Sant'Egidio s'est rendue à Bangui pour rencontrer les autorités centrafricaines. Mauro Garofalo, membre de cette communauté, a indiqué qu'un 14e groupe rebelle s'est rallié à l'accord de paix, qui selon lui n'est qu'une feuille de route. Il a annoncé la future mise en place d'un comité de suivi avec l'Assemblée nationale, des représentants du gouvernement et des observateurs onusiens. 13 groupes armés ont paraphé le 19 juin à Rome avec les autorités un accord prévoyant un cessez-le-feu immédiat. Malgré cette annonce, des centaines de personnes ont été tuées dans des combats à Bria, Bangassou et Bambari. Par la suite, des signataires de l'accord se sont détachés, comme la conférence épiscopale qui dit n'avoir pas envoyé celui qui a signé, tout comme un groupe anti-Balaka.
Au Tchad, l'ex-maire de Mundo et ancien candidat à la présidence a été arrêté jeudi soir à son domicile par la police locale. Son arrestation intervient quelques jours seulement après sa destitution par les conseillers municipaux de la capitale économique tchadienne. Le point avec notre correspondant à N'Djamena, André Kodmajingar.
Laouken Ikrayo Medar est l'un des rares opposants qui a arraché les rênes de la commune de Mundu en 2012. Il est porté à la tête de cette institution tant convoitée par les courtisans du parti au pouvoir grâce à la coalition de 5 partis politiques de l'opposition dénommée Cheval Blanc. Et c'est après 5 ans de session que les conseillers de cette même coalition l'ont destitué au cours d'une session extraordinaire le 28 juin dernier pour faux en écriture publique, concussion, corruption et crise de confiance. Aussitôt destitué, lui, ses adjoints et toute personne impliquée dans la gestion de la commune de Mundu sont sommés par les autorités locales de ne pas sortir en dehors de la ville jusqu'à nouvel ordre. Les choses sont allées trop vite. Laouken Ikrayo Medar a été arrêté ce jeudi à son domicile par des policiers du commissariat de la localité sous le crépitement des gaz lacrymogènes parce que son entourage a opposé résistance. Une arrestation que dénonce son avocat, Maître Mwandiloudi Boniface.
J'étais allé pour l'arrêter sans convocation. Après cela, moi j'ai appelé le procureur général pour lui expliquer, j'ai dit, mais même si c'est comment on doit lui servir une convocation. Après, on présente une convocation. Après, le rouvrable. Et sur la convocation, on écrit des réceptions. Ils sont allés jusqu'à dans sa chambre pour l'arrêter. Manu militari. On l'a conduit comme un malpropre pour l'amener au commissariat. Et lorsque moi je suis arrivé, c'était déjà un bras de fer entre la population et la police et les intermédiaires. On lui reproche d'avoir détourné une certaine somme d'argent. Le contrôle s'est fait à son absence. Même pas de notification, c'est l'arrestation immédiate. Alors, on est dans quel état? C'est politique, c'est pas juridique, ni judiciaire.
Ses compagnons, membres de la coalition Cheval Blanc, ont dans un communiqué de presse crié au complot d'envergure orchestré par le régime pour déstabiliser l'opposition tout entière, car selon eux, c'est le pouvoir qui lui a asphyxié financièrement pour arriver à ce résultat. La réaction du parti au pouvoir ne se fait pas attendre. Kourkao Milesor est le secrétaire régional du mouvement patriotique du salut.
Quel serait l'intérêt donc du MPS de déshabiller Paul pour habiller Pierre, puisque c'est le même parti politique et la même alliance enquête qui continue. Le conseil régional du MPS n'entend plus encaisser de fausses accusations et des injures gratuites et refuse désormais d'être le bouc émissaire des hommes politiques du monde occidental.
Rappelons que Laouken Ikroyou Médard est arrivé troisième à l'élection présidentielle d'avril 2016. Il est considéré comme l'un des leaders politiques charismatiques face au régime au pouvoir. André Kodumatingar Ndjamena pour VO Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Mali, l'armée malienne dit avoir neutralisé dans le centre du pays un important chef de guerre du FLM, le Front de Libération du Massina, groupe djihadiste très actif dans la région et à l'origine de plusieurs attaques contre les forces de sécurité. Une mission de la garde nationale a abattu le terroriste Bekay Sangaré à Mounia, localité à 40 km à l'ouest de Djéné dans la région de Mopti, a affirmé à l'AFP une source militaire en précisant que le chef djihadiste avait été tué jeudi soir. La garde nationale est une unité de l'armée malienne. Bekay Sangaré, dont l'âge n'a pas été indiqué, est un dirigeant du FLM, créé début 2015 et dirigé par le prédicateur radical Peul Amadou Koufa, qui s'est allié au groupe djihadiste en Sardine. Parmi les opérations attribuées au chef djihadiste tué, plusieurs attaques dans le centre du Mali, dont celle des postes de gendarmerie et de douane de Benena, près de la frontière du Burkina Faso, dans la nuit du 8 au 9 juillet. Des assauts repoussés par les forces de sécurité maliennes, selon Bamako. Par ailleurs, le conflit au Mali s'étend désormais au Burkina Faso et au Niger, avec une forte augmentation des attaques de groupes extrémistes dans les régions frontalières ces derniers mois. C'est ce qu'a averti ce jeudi le représentant spécial des Nations Unies en Afrique de l'Ouest, Mohamed Ibn Chambas. Selon M. Chambas, trafiquants de drogue, trafiquants d'êtres humains et marchands d'armes passent les frontières et établissent une présence provisoire avant de se déplacer vers de nouvelles zones. Dans le sud du Nigeria, un soldat a été tué et plusieurs blessés jeudi dans la région pétrolifère du sud du pays par des assaillants non identifiés. Le point avec Diane Ninina Azoué.
L'attaque contre un poste militaire s'est produite hier dans le sud-ouest de l'état du Delta. Il y a une dizaine de jours, deux militaires ont été attaqués à Sapel dans la même région. Les opérations de sabotage des infrastructures pétrolières et les enlèvements y sont courants. Un accord entre les rebelles du Maine et le gouvernement a été trouvé et une amnistie décrétée en 2009. En 2016, la région a été le théâtre d'une résurgence des attaques. Les groupes rebelles armés revendiquent un meilleur partage des revenus, une autonomie politique régionale et la dépollution des sites pétroliers. Le sud-est du Nigeria contient des réserves pétrolières estimées à 70 milliards de barils, mais la région reste l'une des plus pauvres du Nigeria.
En Gambie, le président gambien Adama Barrow a désigné jeudi une commission chargée d'enquêter sur les biens de son prédécesseur Yahya Jammeh, parti en janvier en exil pour la Guinée équatoriale et accusé de détournement de fonds. En mai, le ministre de la Justice Aboubakar Tambado avait annoncé le gel des biens de M. Jammeh, soupçonné par les autorités d'avoir détourné plus de 50 millions de dollars. Le ministre Tambado a précisé que la commission avait trois mois pour mener son enquête et remettre ses conclusions au président Barrow et que toutes ses audiences seraient publiques. Le président américain Donald Trump rentre maintenant aux États-Unis après avoir assisté ce vendredi en invité d'honneur au défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées à Paris, aux côtés de son homologue français Emmanuel Macron. Les cérémonies d'aujourd'hui en France coïncident avec le centenaire de l'entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale et les troupes américaines étaient à l'honneur lors du défilé. Coup de projecteur sur la visite du président Trump avec l'envoyé spécial de la Voix de l'Amérique à Paris, Luis Ramirez, au micro de Timothée Donangmaille.
Le président Trump a dit que d'abord, il n'avait aucune intention de venir à Paris pour ce jour, mais quand le président Macron l'a invité, il a dit que c'est une date très importante pour l'histoire américaine aussi. Monsieur Trump a décidé de voyager à Paris pour deux jours.
Les Français ont été froissés par des propos du président Trump qu'ils ont jugés peu flatteurs au sujet de leur pays. Quel accueil ont-ils réservé à M. Trump?
La France a déployé le type d'accueil qu'il réserve pour ses visiteurs les plus distingués. Avec une fanfare complète, le président américain a visité le tombeau de Napoléon aux Invalides. Il y avait la garde républicaine représentante de toutes les forces armées françaises. C'est vraiment formidable la réception qu'il a reçue.
L'envoyé spécial de la Voix de l'Amérique à Paris, Luis Ramírez. Et pour terminer, deux anciens responsables d'une fondation hospitalière appartenant au Vatican ont été renvoyés devant le tribunal du Saint-Siège à Rome. Ils sont accusés d'avoir détourné 422 000 euros pour financer la rénovation de l'appartement d'un prélat italien haut placé, le cardinal Tarcisio Bertone.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.